Les Républicains, qui ne ressemblaient déjà pas à grand-chose, qui ne ressemblent absolument plus à rien.
Dès lors qu'on rentre, qu'on reste dans les postures, on est sûr qu'on n'a pas de compromis.
Parce qu'il ne faut pas mentir aux Françaises et aux Français sur la situation budgétaire du pays.
Ceux qui ont voulu les grands soirs n'ont jamais obtenu que des matins blêmes.
Le changement d'alliance du Parti Socialiste, qui décide donc de rejoindre le camp des soutiens au gouvernement.
Eh bien, je crois que ce soir, nous pouvons dire que nous avons fait œuvre utile.
Parce que le groupe écologiste a tenu bon, on a évité le pire.
Le vote sur le budget de la sécurité sociale achève de redessiner les frontières politiques. La droite devient perméable à l'extrême droite et la gauche dresse des murs dans son propre camp. C'est le sommaire de ce bonbon de Serge, numéro 136. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, dit un proverbe fréquemment cité par les politiques. Nous y sommes. Sauf accident, l'Assemblée nationale devrait confirmer mardi prochain son vote sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y a deux jours, le texte a été adopté par 247 voix contre 234, soit 13 voix d'écart. Il aurait donc suffi que 7 voix se déplacent et le budget était rejeté, sans parler des députés qui se sont abstenus. Ils étaient 93. L'exercice parlementaire tenait de la haute voltige, et ce d'autant plus qu'à droite, personne ne contrôle quoi que ce soit. Bruno Retailleau avait appelé les députés LR à voter contre ou à s'abstenir. Si 3 d'entre eux ont voté contre et 28 se sont abstenus, il s'en est trouvé 18 pour voter en faveur du projet de loi. Édouard Philippe, pour sa part, avait prôné l'abstention. 25 de ses députés ont suivi la consigne, mais 9 l'ont bravé en votant pour le texte qui leur était soumis. Le patron du groupe, Paul Christophe, faisait profil bas à l'issue du vote.
Je pense qu'il était légitime. D'ailleurs, Édouard Philippe l'a très bien exprimé encore hier soir. Légitime qu'on ne s'inscrive pas, nous, parmi les artisans du chaos, qu'on ne soit pas, justement, à l'aune des extrêmes, à faire une opposition stérile. Mais il était important qu'on puisse affirmer, quand même, parce qu'il ne faut pas mentir aux Françaises et aux Français sur la situation budgétaire du pays, qu'on puisse affirmer les choses et ce qui ne va pas, en particulier dans ce budget, sans pour autant que ça fasse, finalement, entrave à son adoption.
La droite est un champ de ruines et le RN ne se prive pas de donner les derniers coups de pioche, espérant ainsi embarquer les électeurs devenus orphelins.
Les Françaises et les Français pourront aller voir du côté de Laurent Wauquiez, les 18 nouveaux membres du Parti Socialiste, puisque nous avons 18 députés LR qui ont donc voté pour une hausse des taxes de 2,5 milliards d'euros et un déficit de la sécurité sociale qui, de toute façon, sera au-dessus de 20 milliards d'euros. Donc on a vraiment les Républicains qui ne ressemblaient déjà pas à grand-chose, qui ne ressemblent absolument plus à rien, puisque vous avez un président des Républicains, M. Retailleau, qui explique que ce budget de la sécurité sociale était épouvantable, qu'il ne fallait pas le soutenir. Donc 2,5 milliards d'impôts, ce n'est pas assez pour les insoumis, mais c'est, par contre c'est suffisant pour LR et puis pour Édouard Philippe. Monsieur Rigueur, Monsieur Bonne Gestion, Monsieur Focus surtout, Monsieur Hypocrite, voilà, qui arrive avec un groupe qui n'obéit même pas à un ancien Premier ministre qui ne sera donc jamais, on l'espère, président de la République.
Pourquoi tant de hargne ? L'heure est pourtant à l'union des droites, chacun y va de sa formule. Laurent Wauquiez est ainsi favorable à une primaire qui irait de Gérald Darmanin à Sarah Knafo, l'eurodéputé de Reconquête. Un cran en dessous, Bruno Retailleau plaide pour une union dans les urnes. Un accord de désistement donc. Dimanche dernier, sur BFM, il affirmait que le Rassemblement national appartient à l'arc républicain avant d'en exclure la France insoumise. Cette fébrilité unioniste a été provoquée par un délinquant qui fut accessoirement président de la République. Ce Jean Valjean des riches vient de commettre un journal d'un prisonnier, ouvrage qui se lit d'un derrière distrait comme Sacha Guitry aimait à le dire des critiques qu'il éreintait. Dans ce livre, le clone de Paul Bismuth constate que les Républicains auront du mal à se qualifier pour le second tour de la présidentielle s'ils vont à la bataille tout seuls. Quelle perspicacité! Nicolas Sarkozy, puisqu'il s'agit de lui, rapporte encore un échange qu'il aurait eu avec Marine Le Pen. Celle-ci l'interroge. Vous associerez-vous à un quelconque front républicain? Réponse de l'Alexandre Dumas de la Santé, non. Bref, le mur est tombé et l'extrême droite se conjugue désormais au pluriel. Mais voilà, les électeurs de droite en transit pour le RN sont priés de laisser leurs bagages à la consigne.
Monsieur Retailleau, c'est vraiment, même pas une déception, c'est quand même une escroquerie au niveau de l'ordre public et de l'ordre de son propre parti. Donc il y a quand même un moment, quand on dit on veut pas de ce budget et qu'on a un tiers du groupe qui vote pour, faut se poser les bonnes questions. En tout cas, j'invite les électeurs qui restent au LR d'en tirer les bonnes conclusions, à savoir soutenir Marine Le Pen et Jordan Bardella.
A contrario, le Bloc central a fait preuve de discipline en dépit de ses états d'âme. Les 91 députés d'Ensemble pour la République ont voté pour le budget de la Sécurité sociale, comme le MoDem, sans fanfaronnade.
Dès lors qu'on rentre ou qu'on reste dans les postures, on est sûr qu'on n'a pas de compromis. Le compromis, c'est d'accepter que le texte final n'est pas celui dont nous aurions les uns et les autres rêvé. Ça veut dire aussi que personne n'a gagné. Personne n'a perdu, personne n'a gagné. Personne n'a perdu parce qu'il y a un texte qui produit un vote avec un budget, et personne n'a gagné parce que c'est le produit de lignes qui se sont, comment dirais-je, croisées pour essayer de trouver un texte de convergence entre les uns et les autres. Et je voudrais saluer tous ceux qui ont fait le pari de la confiance, du compromis, du dialogue pour aboutir au vote ce soir. C'était pas simple. Vous voyez bien dans quel... Faire voter sur le même texte des gens qui vont des LR aux écologistes, c'était une gageure. Il y a un mois, vous auriez comme moi pensé que c'était assez difficile, même si nous, au MoDem, on est quand même ardent défenseur de cette capacité de dépassement.
À gauche, les fleuves ont retrouvé leur cours naturel. Jacobin contre Girondin, syndicalisme révolutionnaire contre syndicalisme réformiste, parti communiste contre SFIO, LFI contre PS. Rien de nouveau depuis le congrès de Tours en 1920 qui consacra la rupture entre deux stratégies de transformation de la société. Le rêve messianique contre les petits pas.
On peut toujours rêver des grands soirs, mais enfin, en attendant... Pour l'instant, moi, ce que j'observe, c'est une observation historique. Ceux qui ont voulu les grands soirs n'ont jamais obtenu que des matins blêmes. En revanche, ceux qui ont accepté la logique réformiste, qui est la mienne, eh bien, ont souvent obtenu et permis l'état-providence dans lequel nous vivons. Si aujourd'hui, vous avez une sécurité sociale, si vous avez une protection comme on n'en a nulle part ailleurs dans le monde, c'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui, législature après législature, ont permis des avancées parfois spectaculaires, parfois moins, mais qui ont permis de créer un modèle que beaucoup nous envient à travers la planète. Et donc, je crois effectivement que c'est toujours plus facile et plus vendeur d'expliquer qu'on voudrait tout, mais ceux qui veulent tout, en général, n'obtiennent rien. Donc, je n'ai pas tout obtenu, mais ce que je peux dire aussi ce soir, les yeux dans les yeux, à celles et ceux qui m'ont élu, je peux leur dire, moi, j'ai fait le boulot, et tout ce que vous redoutiez de ce PLFSS, ça n'y est plus.
C'est mieux que si c'était pire, c'est entendu. Boris Vallot a dressé l'inventaire des gains.
Rappelez-vous, au moment de la chute de François Bayrou, il y avait la suspension, la suppression de 2 jours fériés, il n'en est plus question. Il y avait une nouvelle réforme de l'assurance chômage, il n'en est plus question. Il y avait le gel des pensions, il n'en est plus question. Il y avait le gel des minima sociaux, il n'en est plus question. Il y avait le gel du barème de la CSG, il n'en est plus question. Il y avait le doublement des franchises médicales, il n'en est plus question. Il y avait la remise en question d'un certain nombre d'exonérations pour les apprentis, pour les chèques déjeuner ou les chèques vacances. Il n'en est plus question. Il y avait la remise en cause des aides à l'embauche outre-mer. Il n'en est plus question. Les moyens de l'hôpital étaient réduits à pas grand-chose, si bien que la tarification était négative. Nous avons augmenté, dans le débat, de 4 milliards le niveau des dépenses de santé. Nous avons suspendu la réforme des retraites. Et ce sont plusieurs centaines de milliers de Français qui pourront en bénéficier dès 2026. Eh bien, je crois que ce soir, nous pouvons dire que nous avons fait œuvre utile.
Des broutilles, semble-t-il, pour Mathilde Panot.
Alors, évidemment, ce vote confirme d'abord quelque chose de très important. Il confirme le changement d'alliance du Parti socialiste, qui décide donc de rejoindre le camp des soutiens au gouvernement. Et je rappelle qu'en démocratie, lorsqu'on vote un budget, on est donc dans la majorité et dans le soutien au gouvernement. Et lorsqu'on vote contre un budget, on se place dans l'opposition. Les socialistes et la direction du Parti socialiste a donc fait un choix extrêmement clair aujourd'hui. En votant pour le budget, non seulement ils permettent à un budget cruel de pouvoir passer, mais en plus de cela, ils sauvent Emmanuel Macron, puisque, je le rappelle, il y a un mois tout juste, la discussion qui existait dans ce pays était de savoir si Emmanuel Macron devait partir, ce qui est toujours, ce qui est majoritaire dans le pays. Et ce qu'ont permis les socialistes, c'est de faire en sorte non seulement de leur donner un sursis, de faire perdre du temps au pays et d'adopter un budget comme celui que nous venons d'adopter en seconde lecture, qui permet par exemple de faire 4 milliards de coupes sur la santé et sur l'hôpital public, dont tout le monde comprendra que c'est extrêmement cruel.
Les socialistes ont fait perdre du temps au pays. Cet argument n'est pas nouveau dans la tumultueuse histoire de la gauche. Au début des années 1930, le Parti communiste considérait les socialistes comme des des socio-traîtres, voire des socio-fascistes. Ils étaient coupables de retarder l'avènement de la révolution prolétarienne, imminente selon le Comintern, jusqu'au moment où la véritable menace fasciste, incarnée par le 6 février 1934, ouvrit les yeux de la direction communiste. 2 ans plus tard, le Front populaire de Léon Blum l'emportait, les communistes s'étant résolus à soutenir les traîtres d'hier, sans toutefois participer au gouvernement. Entre ces deux pôles de gauche, le cœur des écologistes balance. À preuve leur vote, 3 députés se sont prononcés pour le projet de loi, 9 ont voté contre et 26 se sont abstenus.
Enfin, en fait, l'abstention, c'est bien la preuve qu'aujourd'hui, on constate que c'est en fait une situation qui reste à moyen constant, parce que le groupe écologiste a tenu bon, on a évité le pire, mais ce qui serait réellement satisfaisant, c'est pas seulement d'être à niveau constant, ça serait que les soignants aient plus de moyens pour faire leur travail. Et donc c'est pour ça qu'un vote pour est de toute façon pour nous inconcevable, et donc l'abstention, c'est finalement la reconnaissance qu'il y a des moyens constants, que la situation ne sera pas dégradée en termes de moyens globaux, mais non, c'est pas satisfaisant.
Un petit quelque chose, ici et maintenant, ou tout demain, on n'en sort pas. Et cette question est d'autant plus prégnante qu'il n'est pas certain que les lendemains radieux promis par la France insoumise soient au rendez-vous de 2027. À gauche, l'interrogation principale reste de savoir si Jean-Luc Mélenchon incarne toujours le vote utile. Cela a été le cas en 2017 et en 2022. Mais en 2027, dans l'hypothèse où il parviendrait au second tour à la faveur d'une multiplication des candidatures qui abaisserait mécaniquement le ticket d'entrée autour de 16%, Jean-Luc Mélenchon peut-il rassembler toute la gauche et au-delà tous ceux qui ne veulent pas abandonner le pays à l'extrême droite? Ses partisans veulent encore le croire. Son heure est passée, affirme-t-on au PS, où l'on cherche encore comment s'émanciper de la tutelle mélenchoniste sans retomber dans les ornières du hollandisme. Un pari délicat en l'absence d'une incarnation pour la présidentielle. Le charisme de Raphaël Glucksmann, équivalent à celui d'un contrôleur de la SNCF un jour de grève nationale, interdit de rêver. Et pour l'emporter, il faut aussi faire rêver les Français. Merci d'avoir regardé cette chronique. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce. Bien sûr, la chaîne n'attend que votre abonnement, si ce n'est déjà fait. Pour nous soutenir financièrement, le Père Noël étant souffrant, il ne reste que DonorBox. Je vous rappelle que chaque donateur bénéficie d'une réduction d'impôt de 66% du montant de ses dons, et ce, dans la limite de 20% du revenu imposable. Merci à tous ceux qui nous accompagnent déjà. Vous restez la principale ressource de la chaîne, et ce, contre vents et marées. On se retrouve lundi prochain pour un Pôle Express.